France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui suinte et suinte. Nouvel épisode de notre thématique du mois de janvier, la bande. Une série d'émissions pour plonger dans ce médium incroyable et historique, la bande magnétique. Et ce soir, nous recevons, pour notre plus grand plaisir, Michel Chion, compositeur et témoin incontournable des musiques électroacoustiques, l'art des sons fixés, comme il l'appelle. L'occasion de questionner le rapport qu'il entretient avec cette bande magnétique qui ne l'a jamais quitté. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des miniatures micro-montées de sons de gens. Et comme chaque mardi, un son qui fait plop. Le cri du patchwork, thème numéro 33, épisode numéro 2, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Les bulles, naturelles ou artificielles, c'est-à-dire que l'on trouve à même la nature ou fabriquées artificiellement par l'action de l'homme. Des bulles naturelles, on en trouve facilement dans certains endroits de la Terre, en particulier dans des sources d'eau chaude, impliquant geysers et autres glouglous. Le phonographe Éric Cordier a posé ses micros au Japon, sur le mont Ozoresan, qui veut dire le mont de la peur. Avec ses vapeurs chaudes et nocives, ce mont volcanique était assimilé à la porte des enfers, et eh bien ça fait glouglou. Dans le glouglou des bulles, telles que celles du mont Ozoresan au Japon, c'est le grouillement et le bouillonnement qui fascinent. Pour recréer ce bouillon presque anarchique, il vous suffit d'acquérir une bouilloire. C'est exactement ce que fit Mauricio Kagel pour sa fantaisie pour orgue et bande de 1967, qui inclut toute une série de sons enregistrés décrivant la journée de l'organiste, de son lever à l'arrivée à l'église pour jouer à un mariage. Et le matin, eh bien, il y a une bouilloire. Une autre bouilloire, ici totalement stylisée. Dans son opéra The Cricket on the Hearth, opus 62, composé en 1914, Le Criquet dans l'âtre, le compositeur écossais Alexander Mackenzie a rebondi sur la toute première phrase de cette histoire de Charles Dickens pour composer son ouverture. « C'est la bouilloire qui a commencé !» dit le texte. Alors Mackenzie composa une ouverture sous forme de bouilloire atteignant l'ébullition. À vous de juger. Thank you. quand vous n'avez pas de bouilloire, ni d'orchestre symphonique sous la main, il suffit souvent de souffler avec une paille dans un récipient d'eau. Le compositeur Michel Magne, lors de son deuxième concert de musique tachiste, comme il l'appelait, avait intégré un carillon dans l'eau bouillante. Il racontait le moment de la création ainsi. Dans ce carillon dans l'eau bouillante, la mission du timbalier était de faire bouillir l'eau dans une timbale, pour y tremper les carillons qui devaient exploser. Il faillit mettre le feu et fut interrompu par les pompiers. Et comme cela ne fonctionna pas vraiment, Michel Magne dut rectifier le tir en studio en faisant des bulles avec une paille dans de l'eau. De Octopus's Garden des Beatles, chanté par Ringo Starr sur un lit de bloop bloop discret. Jouer avec des bulles fabriquées avec une paille est complexe, et si vous les rythmisez, c'est encore plus dur. Défi relevé par Pascal Ayerbe, bruiteur sonoriste en chef dans Plic Ploc. What? faire des bulles pour filtrer la voix. Si vous chantez ou parlez dans un verre d'eau, ça crée forcément un filtre très particulier. On ne comprend pas vraiment ce que vous dites. Mais la performance est belle. Si Spencer Ye, performeur taïwanais installé aux États-Unis, ne cesse de questionner les modes de performance de son art entre mots et sons. Et dans Murderer of Memories, il s'attache à réaliser sa performance dans un récipient en métal rempli d'eau qui modifie son timbre et bublise sa voix. Ainsi, dans Chinese Water Torture de 2009, il crée une performance où la noyade n'est pas très loin. À cela, il ajoute une distorsion des plus extrêmes pour créer Chinese Water Torture 2, comme un écho sauvage de la première performance. Voici les deux versions enchaînées. Ce sont bien des bulles, derrière une bonne dose de distorsion. Autre bulle distordue, celle qui émane de la cafetière, du percolateur et autres machines à expresso. Elles ne font pas vraiment plop, mais plutôt plop, plop, ou un truc comme ça. Prenez un samovar. Le gros appareil à café est généreux en bulles. Et l'ensemble Esther s'en est délecté dans l'ouverture de leur album Der Yiddische Samovar en 2000. Asseyez-vous et écoutez ce petit chant yiddish au coin de la table et autour d'un bon café. Eins Pripetschik.
Eins Pripetschik brennt auf Feuer und in Stuhl is heiß und der Rebel und kleine Kinderlei dem alle beiß und der Rebel und kleine Kinderlei dem alle
accompagner un chant avec des bulles ou filtrer de la musique avec des bulles ou une cafetière. C'est ce que fait Willem Breuker dans cette Imaginary Symphony in the Air, où la quatrième symphonie de Brahms est filtrée avec une cafetière, tout simplement.
Thank you.
percolateur. La compositrice Diane Labrosse, dans ses musiques pour objets en voie de disparition, rend hommage au bouillonnement et tout sautement du percolateur électrique. Un glouglou qui nous parle du temps qui passe, en quelque sorte.
Qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique. Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Michel Chion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes compositeur, auteur de nombreux ouvrages sur la musique et en particulier sur la musique concrète ou électroacoustique. En tout cas, quelque chose que vous appelez l'art des sons fixés, ce qui est un livre d'ailleurs qui est aujourd'hui disponible sur votre site internet michelchion.com. Cet art des sons fixés, vous en êtes un témoin assez privilégié, vous êtes tombé dedans, on va dire ça comme ça. Et puis vous êtes tombé aussi sur ce médium par lequel vous faites votre art des sons fixés, c'est la bande, que vous utilisez toujours aujourd'hui.
Oui, en effet, quand j'ai commencé à faire cette musique concrète, qu'on appelait électroacoustique à l'époque plutôt, tout le monde travaillait avec ça, d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire on enregistrait sur support bande, on montait, on mixait sur support bande et on jouait sur support bande, mais en même temps, dans les concerts, on ne montrait pas le magnétophone, personne n'était obligé de le voir, mais c'était une chaîne continue. Et moi, j'ai, par rapport à d'autres, soit plus âgés, soit plus jeunes que moi, j'ai continué à travailler sur bande magnétique. Actuellement, quand je travaille chez moi, maintenant, je travaille toujours sur bande magnétique. Mais pour certaines phases du montage, soit je monte directement seul, soit pour des choses plus compliquées, mon ami Geoffroy Mantel m'aide, parce que lui, il maîtrise mieux un système qui est analogue à Pro Tools, c'est des choses comme ça.
Travailler sur une bande, c'est avant tout écouter ce que la bande nous dit, plutôt que d'être sur un ordinateur. On va avoir une forme d'onde dans laquelle on va un peu piocher, où l'œil guide un peu l'oreille.
C'est ça. Et l'œil guide, et parfois, j'ai remarqué, trompe l'oreille, parce que ce qu'on voit sur les écrans d'ordinateur, c'est lié à des questions assez complexes, acoustiques, trompe souvent. Par exemple, quand il y a une hauteur qui est présente, une hauteur précise, hein, un la par exemple, dans un amalgame de sons, ça ne s'affiche pas sur l'écran, mais l'oreille le saisit. Et parfois, les compositeurs qui travaillent uniquement sur ordinateur, qui ne font pas attention à cet effet, n'entendent pas la prégnance de cette note qui va sauter à l'oreille de n'importe qui dès qu'il entendra l'œuvre. Et puis, ça trompe aussi sur la durée. Alors, la bande magnétique, on ne voit rien. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, j'aime bien, j'ai commencé comme ça, j'ai touché avec les mains, si bien que je pourrais faire ma musique en étant aveugle. Ce serait un peu plus compliqué, je ne souhaite pas le devenir, mais je pourrais continuer. Ça, c'est important pour moi.
Vous parlez des mains parce qu'il y a quand même un rapport à la matière avec la bande, qu'on n'a plus vraiment avec l'ordinateur.
Alors, effectivement, bon, certaines personnes cherchent, travaillent avec l'ordinateur sur des accès tactiles, des boutons pression, des machins, etc. Mais moi, la bande magnétique, en fait, je la fétichise pas. Hein, je la montre pas, je la montre pas en public. Regardez la bande magnétique. Mais c'est le support auquel je suis habitué. C'est très important quand on a trouvé son moyen de travail de le garder, et tant qu'on peut le garder, et parce que il correspond à un rythme de travail, il y a des choses qu'on peut faire. Mais contrairement à d'autres compositeurs qui considéraient la bande magnétique comme un support neutre, il me semble que par rapport à d'autres de la même génération ou plus jeune, je me suis intéressé à ce que ça pouvait créer aussi comme support pas neutre. C'est-à-dire, vous savez, la magnétique en soi, ça n'existe pas. Elle est lue à 9,5 cm par seconde, 19, 38, 76 secondes par seconde. Voilà, c'est les vitesses conventionnelles. Et suivant la vitesse, s'il y a un taux de pleurage, c'est-à-dire d'oscillation plus ou moins grand, qu'on peut également influencer en tapotant la bande, ce que je fais souvent. Et puis, il y a les fameuses trois têtes qu'on a sur les magnétophones professionnels, effacement, lecture, enregistrement. Plutôt effacement, enregistrement, lecture, dans l'ordre. Et en jouant sur le contact de la bande avec ces trois têtes, on efface plus ou moins ce qui est en dessous, on grave plus ou moins ce qu'on ajoute, et je me sers beaucoup de ça actuellement.
Oui, parce qu'on se rend compte finalement que la bande, c'est pas uniquement deux dimensions, c'est-à-dire c'est pas une largeur et juste du temps qui va passer, c'est aussi, il y a de la profondeur sur une bande. On peut vraiment aller chercher différentes strates au fur et à mesure.
Oui.
Et dans votre travail, il y a vraiment ça, c'est rapport à la bribe aussi, à des sons qu'on va pouvoir chercher au fur et à mesure par ce rajout et ces suppressions.
C'est ça, j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, c'est-à-dire que des fois, les gens, il faut pas attention, mais si par exemple dans mon Requiem il y a des moments où je fais défiler la bande très rapidement, mais avec le bidule qui l'écarte des têtes, donc ça c'est pas strident, mais ça fait un son estompé. Donc ça peut lire à distance la tête de lecture, hein, une légère distance évidemment. Et de même, si on écarte la tête d'effacement légèrement, genre j'utilise pour ça un coton-tige ou des objets qui n'abîment pas la bande, ni les têtes, pas des objets métalliques bien sûr, eh bien ça efface plus ou moins. Et c'est un peu comme en peinture, puisque les peintres ont fait ça, effacer, gratter la première couche, faire apparaître la seconde, rajouter par-dessus. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler ainsi.
C'est créer du timbre avec la bande. On va écouter justement un extrait de ce Requiem, composé en 1973, c'est le tout début, le Requiem Aeternam. Et cette œuvre-là, qui est devenue une œuvre charnière, à la fois de votre carrière, puis de l'histoire de la musique concrète ou dite électroacoustique, va nous montrer une partie de votre petit secret de fabrication, même voilà, si c'est toute petite, parce qu'il y a plein de mystères qu'on veut garder, évidemment. Donc voici le Requiem Aeternam, du Requiem de Michel Chion.
Chant d'entrée. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que luise sur eux la lumière sans fin. Il sied, ô Dieu, de vous chanter un hymne en Sion. C'est en votre honneur qu'on s'acquitte de ses vœux à Jérusalem.
Requiem. 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 Requiem aeternam. Requiem aeternam. Dona. Dona.
Thank you.
Donaïs.
Donaïs, Don.
Requiem aeternam. Danaïs.
Le tout début du Requiem de Michel Chion, composé en 1973. Alors Michel Chion, ici, on entend une pléiade de vocabulaire que vous utilisez encore aujourd'hui dans vos pièces. C'est-à-dire, déjà, ce son strident d'ouverture qui est très marqué, et puis surtout qui nous parle aujourd'hui avec une quantité d'invités que j'ai pu avoir dans cette émission, ce plaisir d'un son qui ouvre une pièce, qui annonce vraiment qu'on va être autour du son, je pense qu'on peut le voir comme ça. Et puis, on entend votre voix, qui ouvre vraiment votre Requiem, et dans lequel on va vraiment pénétrer dans votre langage. Là, ici, on entend une manipulation. Alors, on ne sait pas très bien quelle est la cuisine derrière tous ces sons, mais on sent que vous avez un langage, que ce soit par la main, par l'oreille, pour arriver à ces textures qui sont vos textures.
Oui, alors, effectivement, le début dont vous parliez, tout début, c'est pour dire aux gens, un peu d'attention s'il vous plaît, ce que j'ai remarqué dans certains concerts, vous savez, dans les films, il y a un rituel, le générique, le lion de la MGM, etc. Ouais, genre, ok, le film va commencer. Tandis que j'avais remarqué que dans certains concerts, l'œuf commençait en catimini, et du coup, les premières secondes étaient perdues. Donc, j'ai mis un son du genre, ça commence.
Vous n'avez pas le choix.
Ensuite, le son se retire, on se dit ouf, parce que ce son est strident. Il y a ma voix. Pourquoi ma voix? Parce que dans bien des cas, je travaille dans des cas de petite production, donc elle est disponible à tout moment. Et ensuite, commence une sorte de chœur électronique. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que volontairement, de la part de la personne qui a écrit ça, c'est qu'elle disait, ouais, c'est une œuvre faite avec des sons de la quotidienneté, alors qu'en fait, c'est des sons électroniques faits avec le même source électronique. C'était une espèce de grand complexe de synthétiseurs construit par Francis Coupigny en 72. J'avais fait une première phase dans laquelle j'avais programmé avec des patchs, enfin, c'est pour obtenir certains sons, ces accords qu'on entend. Et ensuite, connaissant quand même les possibilités de la bande magnétique et de la multicopie qui à la fois estompait les contours, mais en même temps les ramollissait, hein, donnait une texture plus douce et un peu... J'ai aussi recopié à des vitesses inférieures, non pas pour abaisser le son, mais parce qu'à une vitesse inférieure, le taux de pleurage est plus important.
Oui, donc le pleurage, c'est vraiment le wow.
Ouais, enfin, c'est ça. Voilà. C'est... En principe, c'est l'effet à éviter absolument, mais pour ce passage-là... il fallait le créer et ensuite, évidemment, recopier en 38 cm secondes de façon à ce que là, on ait un défilement parfait. Alors, maintenant, avec le numérique, on n'a plus de problème. Le problème de l'instabilité du défilement. Ça fait que ça sonne plus comme un violoncelle, ça fait moins directement sorti du synthétiseur.
Oui, vous noyez la source, en fait, quelque part.
On... les gens qui ont une bonne oreille reconnaissent que c'est électronique, mais il y a quelque chose qui s'interpose. Alors, je ne suis pas contre. Il y a des très belles œuvres faites à l'époque, par, notamment évidemment, par Bell et par Medjani, entre autres, qui prennent le son plus à la source. Il y a quelque chose de plus acide, de plus vert, quelque chose comme ça. Et moi, je cherchais un son plus éraillé. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, on entend l'effet, c'est-à-dire il y a une sorte de vibrato, n'est-ce pas, comme on peut le faire avec un instrument. Et c'est ça que ça m'intéressait beaucoup d'obtenir.
C'est-à-dire que vous manipulez les bandes. Alors, il faut bien le préciser, parce que vous ne faites pas de manipulation en temps réel sur scène. C'est à chaque fois, la pièce est vraiment à son fixé.
C'est vraiment c'est donné en concert. Je l'ai donné parfois, par exemple, 4 fois là, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je donnais aux gens qu'une explication technique. Et puis, ensuite, j'envoyais un fichier à partir d'un ordinateur portable. Ça a aidé aux parleurs. Et pour moi, c'est comme un film. Hein. On peut mettre un bonus au moment de comment c'est fait. Mais le film est le film. Et c'est fait comme un film, exactement.
Ouais. Quitte à ne pas reprendre complètement un montage aussi, parce que finalement, le montage de la bande pourrait nous dire aussi qu'on pourrait très bien en refaire un autre, essayer de chercher à changer.
Oui.
Est-ce que vous, ça vous est arrivé de revenir sur une bande des années 70-80 pour essayer de trouver autre chose ?
Pas celle-là, mais souvent j'ai repris des œuvres plutôt pour les améliorer, essayer de les améliorer. Mais ce qu'on peut faire aussi avec une partition en faisant différentes versions, comme l'a fait Bruckner, ou certains cinéastes, quand ils avaient la possibilité de le faire. Et oui, moi, il y a quelques œuvres que j'ai souvent reprises. J'ai fait 4 versions, puis après, j'ai dit, bon, j'arrête, je ne touche plus. Mais pour moi, ça efface les versions précédentes. J'aimerais, dans l'idéal, que les gens qui ont les versions précédentes ne les passent pas, mais c'est comme ça. Ensuite, les œuvres circulent. Mais là, effectivement, c'est une pièce de son fixé. Et ensuite, évidemment, s'il y a un certain nombre de haut-parleurs, j'en avais à ma demande 10 dans les différents concerts que j'ai donnés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ça me suffisait. L'œuvre étant pour 2 pistes, pour créer des variations qu'on peut créer là dans le lieu même, en jouant de l'acoustique de la salle, du nombre de gens, de leur écoute, etc., pour apporter des nuances et des déplacements spatiaux qui ne sont pas sur le support.
L'art des sons fixés, en tout cas sur bande, est ici, comme on disait, on peut reprendre cette bande, elle a monté, elle a remonté. Oui. Mais c'est vrai que dans l'histoire de cette musique dite concrète, ça n'a pas commencé avec la bande, c'était directement ce disque. Alors, c'est-à-dire que le son était totalement fixé, on ne pouvait pas reprendre un montage réellement.
Il fallait, oui, effectivement.
Là, on parle de la fin des années 40.
Oui, tout à fait. Comme vous dites, Pierre Schaeffer a inventé la musique concrète avec des disques, des graveurs et des lecteurs de disques souples qui permettaient de faire, on commençait une gravure, on arrêtait la gravure, on la reprenait. Donc, on ne pouvait pas faire de micromontage et intervertir quelque chose. Il fallait jeter le disque qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait et en prendre un autre. Mais c'est comme ça qu'a fonctionné la vidéo pendant des années. Hein. Moi, j'ai fait une vidéo dans les années 90. Il n'y avait pas encore le montage dit virtuel. Donc, on copiait sur une bande. Et si, sur une bande magnétique vidéo. Et si ça ne marchait pas, il fallait tout reprendre depuis le début.
Oui, c'est ça. On ne pouvait pas corriger.
Voilà.
En fait,
hein. Mais par contre, on pouvait effacer la bande et la reprendre. Et assez vite est arrivé le magnétophone qui a permis aux compositeur à ce moment-là, français, allemand, etc., de faire du montage très rapide. Et j'ose dire d'autant plus, d'ailleurs, ce qui a été fait dans la Symphonie pour un homme seul, qui était fait sur disque par Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Il y a déjà un montage, une grande précision, mais obtenu avec une grande préparation et un grand soin. Un peu comme les tout premiers films dans lesquels Méliès préparait des tournages très très précis, exécutés avec une précision incroyable.
Oui, on n'avait pas droit à l'erreur, c'est toujours ça.
C'est ça, sinon la pellicule est perdue et il faut tout reprendre.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'ordinateur, l'erreur elle peut être multiple et on peut revenir tout le temps. Ça change quand même la manière de composer. Je veux dire, l'arrivée de la bande va changer la manière de composer par rapport au disque. Aujourd'hui, l'ordinateur aussi. On pourrait dire que la bande, il y a aussi cette notion de temps de composition, vraiment, qui est imposée par la bande, de voir aussi finalement ce temps défiler sous vos yeux. Lorsque vous êtes en train de travailler.
C'est à la fois une... Moi, j'aime bien, ça me berce. Et en même temps, c'est un piège parce que on risque de... Tout moyen comporte ses pièges, simplement, et ses attraits. Et effectivement, quand on voit une bande défiler rapidement... On a l'impression qu'il y a beaucoup de temps, alors que si elle défile rapidement, si on travaille à cette vitesse-là, ça fait que 3 secondes. Et 3 secondes, pour l'oreille, c'est 3 secondes. C'est pas 3 secondes sur bande, 3 secondes sur ordi, 3 secondes sur... Voilà. Et donc, il faut apprendre. Voilà. Mais c'est aussi parce que j'aime ces machines-là. Je les ai connues très jeunes. Mon père ayant acheté quand j'étais petit, lui, il est allé en Allemagne, il avait ramené un gros magnétophone pour amateurs. Ce magnétophone ne permettait pas de variation de vitesse, mais permettait de s'enregistrer, de s'écouter. écouter. Mais on pouvait déjà faire du montage, mais je savais pas comment faire et je n'avais pas le scotch à bande qui permettait. Mais j'ai touché des magnétophones à l'âge de 10 ans et dans ma génération, c'était très rare et c'est pour moi aussi une expérience assez précoce.
En parlant de montage et de micro-montage, vous avez dit le terme tout à l'heure, on va écouter un extrait d'une pièce de Pierre-Henri qui s'appelle Antiphonie. Nous sommes en 1951, donc la bande vient tout juste d'arriver. Ouais. Et déjà, le désir d'aller dans la petite parcelle de son collées les unes à côté des autres.
Voilà.
Antiphonie de Pierre-Henri, 3 minutes de, on pourrait dire zapping aujourd'hui, le terme pourrait être utilisé, c'est-à-dire passer d'une matière à une autre, on n'a même pas le temps d'identifier en fait la source. Là, on est vraiment dans une esthétique du son collé les uns près les autres. Et Michel Chion, j'ai une question, là, quand on entend ça, on a plus l'impression de quelqu'un qui s'amuse à monter un peu au hasard des sons dans tous les sens pour voir le résultat que ça pourrait donner et puis surtout aller jusqu'au bout de ce que la bande peut lui permettre de faire.
Et en même temps, c'est aussi une construction formelle, c'est-à-dire où il essayait d'appliquer des techniques, disons, sérielles, décaphoniques, avec des permutations, un certain ordre des sens construits en inverse. Et donc, il y a une sorte de dialogue formel entre des... Par ailleurs, à la musique instrumentale, qu'il connaissait bien, hein, il avait été l'élève de Messiaen, et Boulez, à ce moment-là, faisait lui-même une étude, etc. Et donc, c'est la courte période de décaphonique et sérielle de Pierre-Henri, qui a essayé beaucoup de choses formellement dans les années 50 et 60.
C'est-à-dire que la bande aussi peut complètement influencer la notion de structure dans la manière de composer. C'est-à-dire que si on ne passe pas par le médium de la partition, pour réentendre ce que l'on a fait auparavant, pour avoir cette conception globale de l'écriture, il faut être toujours dans une réécoute, dans une proposition attentive à ce qui est diffusé. Et non, oui, pas ce qui est pensé.
C'est ça. Et à cette époque-là, et encore plus tard, il y a eu aussi beaucoup de compositeurs, il y en a encore d'ailleurs, qui, eux, faisaient préalablement la partition de l'œuvre avant de la réaliser. Mmh. Ça voulait dire, là, il y aura tel effet, tel effet, tel effet. C'est un peu comme le cinéma, il y a des gens qui préparaient tous les plans avant de les tourner. Ça. Mais pourquoi pas, À condition qu'ensuite, on se dise, ben ça, ça rend moins bien que ce que j'avais prévu, on va faire autre chose. Mmh. Et il faut se laisser cette liberté, à mon avis. Mais cette œuvre-là fait partie des œuvres très, très pré-structurées. Et c'est une méthode de travail comme une autre, je vous dis, à condition que... c'est un peu comme les partitions. Les partitions, c'est différent parce que ça peut jouer plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Là, le tempo est fixé. C'est ça qui me plaît, d'ailleurs.
Oui.
C'est comme au cinéma. Au cinéma, telle chose, chez Bergman, chez un cinéaste, ou même chez Spielberg, vous saisit parce que c'est fait avec une vitesse très précise que le cinéma permet de fixer. Mmh. Et si c'était fait un peu plus lentement, plus rapidement, c'est plus la même chose. Et donc, à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on a forcément pu prévoir sur une partition ou un schéma, hein, un storyboard, comme on disait au cinéma, mais c'est quelque chose qu'il faut sentir au montage et éventuellement donc, ne pas hésiter à corriger ou à reprendre ce qu'on a fait.
Et c'est l'oreille qui guide, et c'est encore une fois, et ça c'est important de revenir là-dessus, parce que c'est vraiment l'oreille, et votre oreille, par exemple, dans une œuvre comme Crayonné ferroviaire, qui date de 1991, donc on se rapproche un peu plus de nous en ce moment, dans cette œuvre-là, vous nous parlez de vos techniques de composition qui passent aussi par cette forme de partition, alors je ne sais pas si on peut dire une partition, un crayonné. Qu'est-ce que c'est qu'un crayonné, Michel?
Alors, j'ai inventé ce mot-là pour un procédé de... l'utilisation de la bande magnétique que j'ai inventée aussi, qui consiste à... qui est d'ailleurs expliquée donc, dans l'œuvre elle-même. C'était une œuvre, c'est un manifeste où j'ai voulu mettre de l'humour. Pourquoi je l'ai fait en 91? C'est parce qu'à ce moment-là, des compositeurs qui travaillaient dans les mêmes studios que moi, j'étais plus membre du jury, mais j'en étais invité comme compositeur, préféraient passer à l'ordinateur. Donc c'est le cas de gens bien plus âgés que moi, comme Parmigiani ou François Bell. Enfin, bien plus, la différence, ça fait quand on vieillit, devient moins sensible. Et évidemment, des gens plus jeunes. Et je voulais montrer que la bande magnétique avait encore des ressources et que ça aurait été dommage que les studios les mettent dans un coin et les abandonnent, ce qui était le cas de beaucoup de studios, et que ce soit des studios de radio, des studios de composition. Mmh. Et c'était bien les garder quelque part, sauf que ça tient à la place.
Oui.
Donc je voulais démontrer que la bande magnétique avait toujours des ressources qu'on pouvait en trouver encore d'autres. Et donc c'est un manifeste, non pas pour l'analogique de catégorie qu'elle est, je ne crois pas, parce que c'est une catégorie fourre-tout, mais pour l'usage de la bande magnétique libre, je vais pas dire, on va pas... c'est-à-dire qu'on peut toujours, là où les gens disent c'est fichu, c'est du passé, trouver des nouvelles ressources. Voilà. Mmh. Donc j'ai eu l'idée d'une œuvre qui s'appelle Crayonné, c'est le nom que j'ai donné à cette manip, qui est expliquée en français dans l'œuvre, et puis créer une œuvre autour de ça et du thème du train. Alors j'ajoute qu'en ce moment je suis en train de sous-titrer toutes les musiques qui comportent du texte de façon à ce que quand je les donne dans un autre pays, les gens puissent suivre à travers des sous-titres sur fond noir ce qui est dit.
Le train était quand même un objet sonore qui a marqué l'histoire de la musique, même du cinéma. On pense à l'arrivée du train en gare de la Ciotat. On pense aux études Chemin de fer de Pierre Schaeffer.
Absolument.
Le Different Trains de Steve Reich. Et votre pièce ici en 91. Oui. Qu'est-ce que le train a de si fascinant pour quelqu'un qui, justement, grave dans le temps de la bande, quelque chose en continu, ce train qui ne cesse de passer et qui s'en va?
C'est magique, notamment le train quand il ne va pas trop vite, puisque le TGV, il n'y a même plus d'à-coup. Il y a une rythmicité, et puis ce sentiment que j'appelle phorique. Vous savez, le phorique, c'est le sentiment d'être porté. Il y a la conjonction d'un rythme, et puis du fait de se sentir porté, et on retrouve des sensations de l'enfance, parce qu'on est... On est porté comme ça rythmiquement, hein, comme dans un landau ou dans le corps de la maman. Hein. Donc le train, effectivement, est un immense thème. Moi, depuis que c'est TGV, où c'est lisse, hein, et il n'y a plus cette rythmicité. Mais donc, c'est évidemment pas étonnant. Moi, j'ai des grands souvenirs de voyages, notamment en train de nuit, et puis où j'enregistrais des sons. Mais il y a aussi dedans des trains que j'ai faits avec des petits jouets, des faux trains, si je peux dire.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'en 1991, en créant ce sorte de manifeste pour la bande, vous étiez déjà un précurseur de ce qui se passe aujourd'hui avec ce retour de la bande? Est-ce que vous pensez que finalement, la bande elle-même impose une forme d'esthétique?
Non, que les gens redécouvrent la bande et pour leur plaisir, et moi j'en suis très content, mais ça peut mener à des esthétiques très différentes. La preuve en est qu'à la même époque où je faisais, par exemple, le Requiem, qu'on a tenu un extrait, les musiques partaient dans toutes sortes de directions esthétiques, et c'était très bien, que ce soit Ferrari, Pierre-Henri, plus tard Christian Zanessi, etc. Ça partait dans 10 000 directions, et donc non, je ne pense pas que ça mène à une esthétique particulière. La preuve en est que mes pièces ont été... ont frappé parfois désagréablement des gens, ou parfois agréablement, par leur esthétique différente, alors que j'utilisais strictement les mêmes moyens que tout le monde, dans les années 70, dirons-nous.
Voici donc votre manifeste, Michel Chion, crayonnier ferroviaire.
Crayonné ferroviaire. Crayonné, pour moi, c'est un manifeste technique, si on veut. Un manifeste, parce qu'il est temps de témoigner contre la dictature du technologique, en l'occurrence, contre la soi-disant obligation du numérique en musique sur bande. Crayonné ferroviaire. Le son du train, il peut tout contenir. Dans ce son, tout peut surgir. C'est le son plaque tournante de tous les sons. Il y a des rendus auxquels je m'intéresse et que je n'obtiens qu'avec la bande magnétique analogique de 6,25 mm de large. Une certaine façon de faire un son avec des aspérités, des hoquets, des chaos, des accros dans le tracé, une texture vivante, un son imprécis d'une certaine manière, avec du clair-obscur, un fondu. Seule la bande me permet de l'obtenir dans certaines conditions. Crayonné ferroviaire. Crayonné ferroviaire. La technique que j'utilise, c'est par exemple d'inscrire une première couche sur la bande et de repasser ensuite dessus avec un second enregistrement. Mais dans ce second enregistrement d'une deuxième couche, je touche la bande enregistreuse, j'interviens manuellement sur le contact entre cette bande et les têtes d'effacement, de lecture, d'enregistrement. Crayonné ferroviaire. Ferroviaire. Pour moi, crayonné ferroviaire. Né ferroviaire. Pour moi, né, c'est un manifeste technique, si on veut. Crayonné ferroviaire.
Le tout début de Crayonné ferroviaire de Michel Chion, composé en 1991. Des crayonnés, en fait, finalement, Michel Chion, on a l'impression que vous dessinez au fur et à mesure sur cette bande, différentes couches où on sent vraiment la matière que vous travaillez au fur et à mesure. Merci beaucoup, Michel Chion, d'être venu partager un tout petit peu de votre savoir et votre carrière autour de cette bande magnétique. On peut retrouver, évidemment, votre activité sur michelchion.com, une sorte de mine incroyable dans laquelle on retrouve aussi beaucoup de livres sur les musiques électroacoustiques que vous avez écrits ou co-écrits. En particulier l'art des sons fixés, qui sont disponibles gratuitement sur votre site. Et puis, une association que vous avez créée qui s'appelle Acoulogia, et sur acoulogia.com, on peut trouver toute une liste de formations à l'écoute des sons que vous réalisez régulièrement et qui sont de plus en plus nombreuses, et que j'invite évidemment chaque écoutants nos émissions, parce que je les appelle écoutants en particulier grâce à votre ouvrage, Le Promeneur Écoutant, Michel Chion, à justement se renseigner sur ces écoutes des sons que vous nous enseignez. Merci beaucoup Michel, à bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Et bonsoir Antoine Berland.
Portrait sonore, Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique ? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Dites bonjour. Bonjour.
Portrait sonore numéro 61, du bruit au chant, Épinay sur Duclair, mai 2016.
Sol à si do.
Fin de notre deuxième épisode du Cri du Patchwork sur la bande. Merci à Perrine Magui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Jean-Michel Bernot. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son, et ainsi qu'à Antoine Villouze de la discothèque de Radio France qui laisse traîner son oreille là-dedans. La semaine prochaine, nouvelle étape dans la bande magnétique en compagnie de Jérôme Nottinger, compositeur et improvisateur qui manipule tant sur scène qu'en studio le médium de la bande, source de texture et de matière infinie et si fine. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet francemusique.fr pour écouter cette émission, mais également télécharger les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants.
Si je fais 1... Tagaram, 1, parap, 2, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, 1, parap, 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble, hein? Bonjour, au revoir, voilà.
Il est minuit, vous êtes bien sur France Musique, je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.